VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, John Lyndon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 6 mai 2016. Au sommaire ce matin,
République démocratique du Congo, l'ambassadeur des États-Unis qualifie de fausses les accusations d'activités de mercenariat portées contre Moïse Katumbi et dans lesquelles seraient impliqués des citoyens américains.
Climat, Ban Ki-moon appelle à plus d'action. Le secrétaire général de l'ONU l'a fait savoir hier lors d'un sommet sur le climat ici à Washington.
Il faut transformer les promesses de Paris en actes concrets.
Crise politique au Brésil, rebondissement majeur. Le président du Congrès des députés, Eduardo Cunha, qui a voulu la tête de Dilma Rousseff, est à son tour dans le collimateur pour entrave à la justice.
Ici aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a déclaré hier qu'il n'était pas prêt pour l'instant à soutenir Donald Trump, pourtant candidat de son parti à la présidentielle américaine.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Une fois encore, bonjour. En République démocratique du Congo, après la sortie du ministre de la Justice Ntamboué Mwamba, qui accuse l'opposant Moïse Katumbi de recruter des mercenaires étrangers, y compris d'anciens militaires américains, l'ambassade des États-Unis à RDC s'est dit préoccupée par ce qu'elle qualifie de fausses accusations d'activité de mercenariat dans lesquelles seraient impliqués des citoyens américains. Des précisions avec Eddy Isango.
L'ambassade fait part de sa profonde préoccupation dans un communiqué publié sur son site internet. Elle qualifie de fausses les accusations faites la veille par les ministres congolais de la justice Alexis Thambwe Mwamba. L'ambassade dit être au courant de la détention le 24 avril d'un citoyen américain qui travaillait au Katanga comme conseiller en sécurité. Mais ce Daryl Lewis n'était pas armé et les allégations selon lesquelles il était impliqué dans des activités mercenaires sont fausses. Nous comprenons qu'il travaille dans une société privée américaine qui fournit des services de consultation à des clients à travers le monde entier, précise l'ambassade américaine. La veille, le ministre congolais de la Justice avait déclaré avoir donné injonction au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire dans l'ex-province du Katanga, affirmant avoir la preuve documentée que plusieurs anciens militaires américains qui se trouvent actuellement au Katanga sont au service de M. Moïse Katumbi. L'injonction du gouvernement pour une enquête judiciaire a été faite juste après que M. Katumbi a confirmé qu'il acceptait de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle, comme le lui demandent plusieurs plateformes de l'opposition. Jeudi, M. Katumbi a demandé à la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, d'assurer sa sécurité après l'encerclement de sa résidence par les forces de sécurité et des renseignements. Des alertes avaient été données sur une imminente arrestation de l'opposant.
Dans le même registre relatif à la présence de mercenaires américains sur le sol congolais, l'opposition congolaise regroupée au sein du G7 recommande une enquête neutre, impartiale, avec l'expertise internationale de la MONUSCO afin de rétablir la vérité sur ce dossier. Au cours d'un point de presse jeudi à Kinshasa, cette plateforme qui soutient Moïse Katumbi, qui a été citée dans cette affaire par le ministre de la Justice, exige la liberté de mouvement et la présomption d'innocence pour son candidat à l'élection présidentielle. Écoutons Pierre Lumbi, le cadre du G7.
Le G7 exige une enquête neutre et impartiale associant l'expertise internationale et la MONUSCO, en particulier pour établir la vérité sur le prétendu recrutement des mercenaires par M. Moïse Katumbi. Le G7 souligne qu'à ce stade, rien ne peut justifier une garde à vue, ni une résidence surveillée, ni un quelconque mandat d'arrêt, et encore moins la détention préventive de M. Moïse Katumbi, un leader politique d'envergure nationale, incontestable et ayant une résidence connue à Lubumbashi. Le G7 réaffirme sa détermination de lutter avec toutes les forces acquises au changement, de l'opposition comme de la société civile, pour le respect de la Constitution et l'alternance démocratique en RDC. Le G7 exprime toute sa satisfaction quant à l'acceptation de sa sollicitation par M. Moïse Katumbi et le félicite pour son courage politique.
Toujours en RDC, Vano Kiboko, ex-député proche de l'opposant Moïse Katumbi, est condamné en 2015 à 16 mois de prison pour incitation à la haine tribale, a été libéré hier au terme de sa peine. Ancien député de la majorité de 2006 à 2011, il s'était opposé à une révision de la Constitution qui permettait au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de briguer un troisième mandat. Le climat politique est très tendu depuis plusieurs mois à RDC et chaque jour éloigne un peu plus l'idée que la présidentielle pourra s'éteindre avant la fin de l'année comme prévu.
La police ougandaise a arrêté jeudi à Kampala au moins 18 personnes protestant contre la réélection du président Yoweri Museveni à un autre quinquennat. L'opposition, elle, parle d'une centaine de personnes détenues et accuse la police d'avoir tiré à balles réelles. Les précisions, Lionel Gaïma.
Des témoins dans la capitale ougandaise rapportent que les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène contre les manifestants accusés de désobéissance aux ordres et de manifestations non autorisées. La tension s'est avivée dans le pays depuis la réélection en février du président Yoweri Museveni avec 60% de suffrage. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État ougandais sera investi le 12 mai. L'opposant Kizza Besigye, crédité de 35% de voix, a dénoncé une fraude généralisée. Une opinion partagée en partie par les observateurs de l'Union européenne qui ont fait état des manques de transparence du scrutin et d'une atmosphère d'intimidation des électeurs. La réponse des autorités a été brutale et tous les gens ayant tenté de marcher à travers le pays ont été arrêtés, affirme Ingrid Turinawe du Forum pour le changement démocratique, le parti de Besigye. Ce dernier est pratiquement en résidence surveillée depuis l'élection présidentielle jeudi. Le gouvernement ougandais a interdit toute couverture radio et télé des manifestations. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 28 civils ont été tués hier dans des raids aériens sur un camp de déplacés près de la frontière turque. La ville d'Alep, pour la seconde journée, a savouré la trêve pendant que la cité de Palmyre a tenu son premier concert. Elis Megel.
Rami Abdelrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a affirmé que ces raids ont ciblé le camp près de Sarmada, contrôlé par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Selon lui, toutes les victimes sont des civils, dont des femmes et des enfants. Mamoun Al-Kadib, directeur d'une agence de presse pro-rebelle basée à Alep, a accusé le régime de Bachar al-Assad pour ces bombardements. Alep, la deuxième ville du pays, a goûté hier au calme. Aucune attaque n'a été signalée suite à la trêve de 48 heures négociée par Washington pour mettre temporairement fin au combat meurtrier. La ville de Palmyre, elle, a connu une ambiance surréaliste. Le célèbre chef d'orchestre russe, Valery Gergiev, a dirigé un concert symphonique devant 400 spectateurs, dont de nombreux soldats russes dans l'amphithéâtre où le groupe État islamique a mené des exécutions il y a un an. Un autre concert organisé par le régime syrien doit se tenir ce soir dans la cité débarrassée des djihadistes.
Rebondissement majeur de la crise politique au Brésil. Le président du Congrès des députés Eduardo Cunha, qui a voulu la tête de la présidente de gauche, Dilma Rousseff, est à son tour dans le collimateur de la justice pour entrave à la justice. Ce député évangélique ultra-conservateur a été écarté de ses fonctions, ce qui le prive de devenir second dans l'ordre de succession en cas d'ouverture formelle d'un procès en destitution de son farouche adversaire le 11 mai, Eric Manirakiza.
C'est un juge du tribunal de suprême fédéral qui a surpris tout Brasilia. Le premier a été M. Cunha lui-même, notifié dans la matinée par un huissier à sa résidence. Il est resté retranché sans faire de déclaration, malgré la présence de journalistes et de badauds. Depuis décembre dernier, le député évangélique ultra-conservateur Eduardo Cunha a tiré les ficelles de la procédure d'impeachment de la présidente de gauche Dilma Rousseff, sa plus farouche adversaire. La décision judiciaire a marqué un coup d'arrêt. Selon le juge Théori Zavascki, M. Cunha ne présente pas les conditions personnelles minimales pour exercer en ce moment, dans leur plénitude, les fonctions de président de la Chambre des députés.
Empêtré dans une rébellion du camp républicain, Donald Trump s'est rendu jeudi en terrain conquis pour son premier meeting de candidat probable du parti pour la Maison-Blanche dans une région minière sinistrée où il a fait une promesse, celle des emplois. Le candidat républicain a attaqué celle qui est désormais son adversaire principal, à savoir Hillary Clinton, probable candidate démocrate à la présidentielle de novembre. Au pays du charbon, une gaffe d'Hillary Clinton est sur toutes les lèvres. Elle a dit à Mars mars au détour d'une phrase sur les énergies renouvelables qu'elle allait mettre beaucoup de mineurs au chômage. Malgré ses excuses lundi, les familles des mineurs n'ont pas digéré.
Et bien qu'il soit désormais seul en course pour le ticket républicain à la Maison-Blanche, on note cependant que la campagne du milliardaire Donald Trump a tellement divisé les conservateurs que même le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, refuse pour l'instant de le soutenir.
Pour être tout à fait franc avec vous, je ne suis pas encore prêt à le faire, à le soutenir, a déclaré M. Ryan hier sur CNN dans une déclaration fracassante pour un responsable de ce rang au sein du Parti républicain.
Et la Corée du Nord a ouvert sa première grande assemblée politique en près de 40 ans, un congrès du parti unique au pouvoir qui doit consacrer le règne absolu de Kim Jong-un avec pour toile le fond de fond l'éventualité d'un nouvel essai nucléaire. Le dirigeant nord-coréen devrait prononcer une allocution liminaire qui sera scrutée de près par des observateurs à la recherche de signes éventuels de changement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso a perdu la somme de 49 milliards de francs CFA en 2016 en raison de la faible capacité d'absorption de ses financements. C'est ce que rapporte l'APA auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Cette annulation intervient dans un contexte d'élaboration du PNDES, le Programme national de développement économique et social au Burkina Faso. Ce programme qui vise à dégager les actions prioritaires de développement couvrant la période 2016-2020 viendra en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Ce programme n'a de chance d'aboutir que si le Burkina Faso corrige ses taux d'absorption et met un accent sur la transparence dans la région, disent des experts. La ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, a estimé jeudi à Washington que le traité de libre-échange transatlantique actuellement en négociation pose de gros problèmes et nécessitait des modifications. Pour l'instant, le compte n'y est pas, a déclaré à l'AFP Madame Royal. L'Europe est une promesse qui n'a pas été tenue à l'égard des générations contraintes à des sacrifices pour sauver des banques, a déploré ce jeudi le président du Parlement européen, Martin Schulz. Il a tenu ses propos lors d'un débat sur l'avenir de l'Europe organisé à Rome, en Italie, en présence du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, des présidents du Conseil européen, Donald Tusk, et du Conseil italien, Matteo Renzi.
Merci Bagassi. Une musique qui ne trompe pas, Tatiana Mosso est là pour nous parler de sport ce matin. Bonjour Tatiana.
Bonjour John.
On connaît l'affiche de la finale de la Ligue Europa.
Séville-Liverpool, tels seront les finalistes. Le FC Séville a éliminé le Shakhtar Donetsk 3-1 hier soir. L'autre club espagnol, Villarreal, a été éliminé par Liverpool après une défaite 3-0 sur la pelouse de Liverpool.
Classement FIFA, l'Algérie toujours en tête du continent africain.
La FIFA a publié jeudi le nouveau classement mondial. L'équipe nationale algérienne se positionne à la première place des nations africaines et la Côte d'Ivoire et le Ghana complètent le podium africain. En tête du classement, c'est le statu quo avec l'Argentine en tête devant le Chili et la Belgique.
Transfert, Ibrahimovic pourrait retourner en Italie selon son agent.
L'attaquant suédois en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain pourrait retourner en Italie à Milan, c'est ce qu'a assuré son agent Mino Raiola, cité dans la presse italienne. L'agent d'Ibra, Paul Pogba ou Mario Balotelli a fait cette déclaration dans une interview au magazine GQ. C'est le seul extrait concernant l'avenir du Suédois à avoir été publié dans la presse italienne et c'était sur le site internet de la Gazzetta dello Sport. La superstar parisienne est le meilleur buteur 34 et meilleur passeur avec 13 passes de la Ligue 1.
Bonne nouvelle pour le cyclisme africain.
Le grimpeur érythréen Merwawi Kudus, 22 ans, remarqué en début de saison au Tour d'Oman, prendra ce vendredi au départ du 99e Tour d'Italie avec l'équipe sud-africaine Dimension Data. Il sera le premier coureur érythréen de l'histoire du Giro.
Tennis, Djokovic en quart à Madrid sans perdre de temps.
Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, s'est facilement qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid en expédiant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 17 au classement, en 2-7, 6-2, 6-1.
Et on termine, Tatiana, par les résultats des matchs des demi-finales de conférence des play-offs NBA disputés hier jeudi. À Toronto, Toronto bat Miami 96-92 après prolongation. Toronto et Miami à égalité, une victoire partout. Conférence Est, Cleveland 2, Atlanta 0. Conférence Ouest, San Antonio 1, Oklahoma City 1.
Et puis Golden State 2, Portland 0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lydon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour et on commence par le climat. Deux semaines après la signature historique de l'accord de Paris sur le climat par 175 pays à New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé hier qu'il était temps de passer à la prochaine étape en matière d'action climatique. Il s'agit notamment d'approfondir les coalitions initiées par des gouvernements, le monde des affaires, de la finance, la philanthropie, la société civile et des universités au sommet sur le climat organisé par le secrétaire général à New York. C'était en 2014. Reportage, Maëlys Hegel.
On veut, mesdames et messieurs, de l'action.
De l'action, tels étaient les maîtres mots de la première journée de cet énième sommet sur le climat qui intervient deux semaines après la cérémonie de signature de l'accord de Paris à New York et huit mois après la COP21 en France. Cette rencontre, baptisée Climate Action, se veut être un espace de discussion. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à des actes concrets.
Il faut transformer les promesses de Paris en actes concrets et excellent le plus tôt possible. On a besoin d'action maintenant. Les températures continuent d'augmenter, la glace fond rapidement en Arctique.
L'accent était mis sur la responsabilité des villes, comme l'a expliqué Ségolène Royal, ministre française de l'écologie, mais aussi et surtout présidente de cette COP21.
Il est impératif que les États donnent de la liberté aux territoires et aux villes comme elles le demandent pour mettre en place leur nouveau modèle énergétique. D'abord parce que c'est leur intérêt. N'oublions pas que les 20 plus grandes métropoles du monde sont directement menacées par la montée des océans parce qu'elles se situent sur le littoral des grands continents d'une part et d'autre part parce qu'on sait que 70% des actions efficaces de la transition énergétique sont portées à des dimensions infranationales. C'est dire à quel point les villes et les territoires sont à la fois les victimes du dérèglement climatique mais en même temps tiennent entre leurs mains les solutions.
Le groupe C40 regroupe 40 maires du monde entier qui travaillent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces maires, 10 sont africains. Des régions comme le Sahel subissent d'abord les conséquences du réchauffement climatique, comme le rappelle Hakima El Haïté, la ministre de l'Environnement du Maroc.
Les impacts des changements climatiques, ce n'est pas demain. Nous les avons vécus depuis les années 60 au Maroc. On a commencé notre politique d'adaptation dans les années 60. L'Afrique, les États insulaires, les États du Pacifique souffrent tous les jours des impacts des changements climatiques.
De l'action, justement, c'est ce que propose Sandrine Dixon de Clèves. Elle est chargée du partenariat de l'initiative de l'ONU, Sustainable Energy for All, dont l'objectif est de fournir un accès à l'énergie renouvelable à tous. On rappelle que le but de l'accord de Paris est de maintenir le réchauffement global en dessous de 2 degrés Celsius. Pour ce faire, les pays développés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Maëlys Segel depuis Washington pour VOA Afrique.
Angélique Kidjo et trois mouvements de jeunes militants africains se sont vus décerner le prix ambassadeur de la conscience 2016 d'Amnesty International. La chanteuse béninoise de renommée internationale et les mouvements Yana Mars du Sénégal, Luc Tchad RDC et le ballet citoyen du Burkina Faso partagent donc ce prix. Jointe par Nathalie Barge à New York, la star africaine a dit être fière de figurer parmi ces jeunes militants en tant que lauréate.
Je suis contente que des jeunes Africains aient reçu ce prix avec moi parce que l'Afrique n'avancera que si les jeunes Africains commencent à comprendre que ils doivent être des artisans de cet avenir-là et de leurs droits. Je suis vraiment contente que Amnesty International comprenne l'importance des artistes dans le changement en Afrique, de mon continent, et la participation des jeunes à ce mouvement-là.
Justement, comment l'expliquez-vous finalement, vous, la grande chanteuse que vous êtes, avec tous ces jeunes? Est-ce que c'est le pont entre deux générations?
Pas seulement, c'est aussi le fait que je me suis engagée dès le départ dans ma musique à défendre les droits des hommes. Mon premier tube, Oui Oui, sur l'album Le Gozo, c'était une chanson dans laquelle je parlais du fait qu'on ne pourrait pas mettre en prison des gens parce qu'ils ont une opinion différente. Moi, j'ai toujours été une avocate des droits de l'homme parce que sans droits de l'homme, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de société. Si nous perdons la liberté de choix et d'opinion, est-ce qu'on peut parler de démocratie quand il n'y a pas de dialogue avec la population qu'on est censé gouverner?
Est-ce que ce prix, selon vous, va vous permettre de porter encore plus haut la voix des femmes africaines?
Moi, je parlerai toujours des femmes africaines, pris ou pas pris, parce que ces femmes-là qui me permettent de continuer à croire que demain sera meilleur parce qu'elles ne baissent jamais les bras et qu'elles sont la colonne vertébrale de ce continent qui est le mien, que j'adore. Les femmes, nous portons le monde, nous portons l'humanité, nous donnons vie à l'humanité. Si on est silencieux, personne ne nous tapera sur les épaules pour nous dire qu'on fait du bon travail. Et moi, en tant que femme, je suis pour la parité complète, l'égalité, et qu'il faut que ça évolue. Ça n'évolue pas assez vite pour moi, d'ailleurs, je dois dire. Mais les choses changent, mais lentement. Mais il faut que ça change beaucoup plus vite pour qu'on puisse arriver à avoir des femmes au pouvoir qui peuvent amener une autre façon de gouverner dans le jeu du politique.
Alors, vous avez toujours dit, il me semble, dites-moi si je me trompe, que la politique, finalement, ne vous intéressait pas beaucoup. Je sens un petit peu dans votre discours que ça pourrait peut-être changer.
Non.
Certaines.
Non, certaines. Je crois à la démocratie, je crois à la liberté d'expression, dans son sens le plus pur. Et au jour d'aujourd'hui, cette démocratie, est-ce qu'elle existe réellement? Parce que le processus démocratique que nous avons n'a jamais été remis en question. On n'a pas travaillé dessus parce que au jour d'aujourd'hui, la majorité ayant toujours la voix au chapitre ne suffit plus. Il y a des minorités qui sont puissantes, qui existent. Comment est-ce qu'on peut arriver à recalibrer notre démocratie d'aujourd'hui pour que toutes les voix se fassent entendre et que tout le monde soit représenté, les minorités comme les majorités?
Pour écouter l'intégralité de cette interview d'Angélique Kidjo, rendez-vous dans le magazine Au Féminin ce samedi à 19h35, temps universel, et sur voafrique.com. La récente célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été une occasion de se pencher sur les réalités financières auxquelles fait face la liberté d'expression. Les journalistes sont peu rémunérés, les rédactions manquent de moyens. Le point sur la situation au Rwanda avec ce reportage de Maurice Magouran à Kigali.
Au Rwanda, la corruption qui touche les journalistes est communément appelée giti, un pot de vin ou une petite enveloppe offerte par l'institution ou l'individu qui organise l'événement. Cette corruption frappe de plein fouet les médias. En effet, selon un rapport de Transparency International Rwanda, sur plus de 500 journalistes, 70% reconnaissent avoir accepté au moins une fois le giti pour réaliser un reportage, ce que confirme l'Institut Panos Grand Lac.
La pratique de giti est ailleurs dans les autres pays, on appelle ça gombo. Et il y a ceux qui appellent ça perdième, ainsi de suite. On essaie de chercher les petits mots pour signifier tout simplement la corruption. La corruption pour ne pas l'annoncer comme telle. Et c'est un phénomène qui existe au Rwanda. Et si on voit cette pauvreté des journalistes, les journalistes qui n'ont pas les moyens de survie, ils sont des moments, ils sont dans l'obligation de taire l'information moyennant une petite somme.
Nous sommes à Kigali, dans la maison de la presse, un lieu ouvert aux professionnels des médias. Les journalistes qui côtoient la maison sont du même avis.
En général, nous acceptons cet argent car on ne peut pas faire autrement. Les propriétaires des médias n'ont pas la capacité de donner les frais de transport aux journalistes qu'ils envoient sur le terrain. Dans ce cas, il est normal qu'ils touchent cet argent de transport pour subvenir à leurs besoins.
Les journalistes ne touchent pas leur salaire ou tardent à être rémunérés ou encore ont un salaire insignifiant à cause de la faible capacité de leur employeur. Les journalistes acceptent cet argent en attendant que le salaire arrive, par exemple, jouir de 5 000 francs rwandais supplémentaires sur les quelques 100 000 francs rwandais de salaire qu'on touche par mois.
La corruption qui touche les médias a des conséquences sur la ligne éditoriale. Parfois, les journalistes délaissent les vrais sujets qui méritent qu'on s'y intéresse pour couvrir les événements où ils sont sûrs de toucher l'argent. Pour Claude Kawengela, directeur de l'information à Télé 10, une chaîne privée, la corruption n'est pas le seul mal qui touche les médias rwandais. Les annonceurs imposent aussi leurs conditions et font en sorte qu'ils ne seront jamais critiqués.
Nos sponsors nous payent pour couvrir leurs événements. Les compagnies de télécommunications, les sociétés de publicité dépensent des millions en sponsoring. Que voulez-vous qu'on fasse quand une société de publicité injecte 4 ou 5 millions dans votre compagnie? Vous voulez qu'on en dise du mal?
22 ans après le génocide des Tutsis de 1994, les médias rwandais se recherchent toujours. L'intégrité des professionnels des médias est compromise. Leur capacité à façonner l'opinion publique et à informer objectivement les citoyens reste très limitée.
C'était un reportage de Maurice Magouran, notre correspondant à Kigali. La ville de Londres pourrait connaître le nom de son nouveau maire ce vendredi. Pour la première fois, la capitale du Royaume-Uni pourrait être dirigée par un musulman d'origine pakistanaise, quelqu'un qui n'hésite pas à exhiber son identité religieuse. Fils d'un chauffeur de bus, le député travailliste pro-européen Sadiq Khan est donné favori par les sondages face au conservateur Zach Goldsmith, fils d'un milliardaire franco-anglais d'origine juive. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Londres le praticien du développement communautaire et social et candidat malheureux aux législatives de 2015 pour le compte du parti Red Flag Anticorruption, René-Claude Mugenzi.
Ces élections, c'est très important. Elles sont très importantes parce que le candidat, il est un musulman qui est tellement connu à Londres parce qu'il est déjà député. Il représente une partie de Londres de Sud-Ouest Londres. Il représente le parti des travaillistes et aussi notre candidat qui représente le parti qui est au pouvoir du parti conservateur. Comme on voit que et tous les sondages pensent que Sadiq Khan, le député, peut être le maire de Londres parce qu'il est vraiment très connu. Aussi, Londres, notre réseau, c'est que Londres est habité par beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de pays, il y a beaucoup de culture à Londres. Donc, ça fait que l'élection d'un Asiatique ou d'un musulman, c'est quelque chose qui est un peu normal à Londres.
Vous êtes candidat malheureux des législatives de 2015. Vous aviez représenté le parti Red Flag Anti-Corruption. Vous êtes dans le développement communautaire, vous êtes très connu, mais vous n'avez pas été élu. Qu'est-ce que lui a plus que vous pour décrocher la mairie de Londres?
Ah, lui, il a beaucoup d'expérience. Il a déjà élu comme député pendant 3 mandats et il est connu dans le parti des travaillistes. Il est connu dans la chambre des députés comme quelqu'un qui a vraiment milité pour le développement, pour le bien-être des gens qui sont des minorités. Beaucoup de minorités ont des gens désavantagés. Donc il est connu dans toutes ces campagnes depuis des années. Et quand le parti des travaillistes était au pouvoir, il y a des rois et des idées qui ont été mises en place, mais qui venaient de Rouy, ceux qui avaient championné. Donc il est tellement connu. Je pense que la population de Londres va reconnaître ce qu'il a fait en tant que député pour lui donner, je l'espère, le poste de maire de Londres.
Donc, vous voulez dire qu'il a déjà un bilan derrière lui à vendre?
Oui, oui, oui. Même avant même qu'il soit député, il était avocat des droits de Rome. Il a défendu beaucoup de gens à Londres contre les lois qui faisaient que les gens avaient beaucoup de problèmes dans la vie. Il est avocat de profession, avocat de droits de Rome. Et ce bilan, je pense que ça va lui aider à être élu.
Le travailliste Sadiq Khan, favori des sondages, il est pro-européen. Est-ce que vous pensez que son élection éventuelle pourrait influencer le référendum à Londres en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne?
Je ne crois pas que la population de Londres en général, ils sont pour maintenir le pays dans la communauté européenne.
René-Claude Mugenzi, joint à Londres par Eric Manirakiza.
Mama,
C'est la fin de cette édition présentée par John Lyndon et Jean-Roger Billon. Production Georges-Léonard Sagnot, mise en onde de Zuckber. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonsoir. Bonjour, bonsoir.